Chanson d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et on parle d'abord de la violence en Turquie avec ce triple attentat suicide hier soir à l'aéroport international d'Istanbul qui a fait plusieurs dizaines de morts, 240 blessés au moins. Bonjour Anan Lawer, vous êtes en ligne d'Istanbul.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors en une année, Anne, avec près de 200 morts dans 6 attentats attribués au groupe État islamique, la Turquie est devenue l'un des pays cibles des attaques de Daesh. Dans quelle mesure la Turquie est-elle aussi une cible de sa propagande ?
La Turquie est un terrain à part entière de la communication de Daesh. Le groupe publie un magazine en langue turque, Constantinier, depuis juin 2015, depuis l'attaque à Diyarbakır dans le sud-est du pays contre un meeting du parti pro-kurde. Le 6e numéro de Constantinier a été publié en avril. À longueur de page, Daesh y appelle ses frères turcs et kurdes à gagner son califat autoproclamé en Syrie et en Irak. En octobre 2015, les autorités estimaient entre 1000 et 1300 le nombre de leurs ressortissants qui avaient rejoint les rangs de Daesh. Un chiffre probablement sous-estimé, mais force est de constater que certains musulmans de Turquie sont donc réceptifs à cette propagande. Cela explique sans doute un fait intéressant et rarement souligné. Aucun des attentats de Daesh sur le territoire turc n'a été revendiqué. Ce sont toujours les autorités turques qui ont pointé du doigt l'organisation après une attaque. Dans le dernier numéro de Constantinier, par exemple, le groupe se vante d'avoir commis les attentats de Bruxelles en mars, mais n'écrit pas un mot sur les attentats d'Istanbul ou d'Ankara. Une stratégie prudente visant peut-être à ne pas susciter la désapprobation de ses sympathisants en Turquie, laquelle reste un pays clé pour le groupe terroriste. Soulignons d'ailleurs qu'à ce jour, dans ce pays, Daesh a toujours frappé des cibles touristiques ou des militants de gauche ou du mouvement politique kurde. Rappelons aussi que c'est avec la Turquie que Daesh partage sa plus longue frontière à cheval sur l'Irak et la Syrie.
Alors justement, Anne, la frontière turco-syrienne a longtemps été un boulevard, pour ne pas dire une passoire, pour les combattants de Daesh en Syrie.
Oui, pendant longtemps, la Turquie a été une base arrière logistique par laquelle ont transité des équipements, des armes, des biens de consommation et bien sûr des milliers de nouvelles recrues désireuses de rejoindre le califat autoproclamé. Les alliés occidentaux de la Turquie n'ont pas manqué de lui reprocher, ce à quoi la Turquie répondait invariablement qu'elle ne pouvait pas rendre étanche ces 1300 km de frontière avec l'Irak et la Syrie et qu'il revenait au pays de départ de renforcer leur contrôle et de signaler en amont les voyageurs suspects. Aujourd'hui, ces mêmes alliés, certains touchés par des attentats, ont non seulement renforcé leur contrôle, mais ils reconnaissent également que la frontière turco-syrienne est nettement mieux surveillée. Cela a pour effet d'affaiblir l'organisation, qui n'est plus en mesure de se ravitailler en armes et en combattants aussi tranquillement qu'autrefois. Le signe le plus visible de cette nouvelle donne, c'est le mur de béton de 350 km de long que les Turcs sont en train d'ériger le long de la frontière syrienne. La protection de cette frontière est un sujet d'autant plus crucial qu'on sait que nombre de djihadistes, poussés dans leur retranchement par les attaques des différentes coalitions en Syrie et en Irak, cherchent à rejoindre leur pays d'origine afin de se livrer aux autorités ou d'exporter le conflit en Europe. Les services de renseignement occidentaux sont d'ailleurs en ébullition.
Merci Anan Lawer. Cet attentat intervient dans un pays divisé où le climat de violence est doublé d'une dérive autoritaire du président turc. On va d'ailleurs entendre à ce sujet votre reportage. Et ce n'est un secret pour personne. Recep Tayyip Erdogan a pour ambition de se débarrasser de 9 décennies de tradition parlementaire pour instaurer un régime présidentiel à sa mesure. Et il espère bien soumettre son projet à référendum. Pour le président turc, la bataille se livre aussi devant l'opinion qui s'est longtemps montré hostile à un changement de régime. Or, ces derniers mois, le vent semble tourner en sa faveur.
Le marché, c'est l'un des endroits idéaux pour prendre le pouls de l'opinion publique en Turquie. Celui de Beşiktaş, le samedi, est l'un des plus grands d'Istanbul. Les vendeurs sont originaires de tout le pays et les clients arrivent des quatre coins de la ville. Interroger les Turcs sur leurs opinions politiques n'est pas une tâche très compliquée. Avec le football, c'est le thème préféré de leur conversation. Entre une pyramide de laitue et une bassine d'artichaut, la question est lancée. Êtes-vous pour ou contre le régime présidentiel dont parle Tayyip Erdogan ? Adem Çetin, vendeur de lingerie féminine, a une idée bien arrêtée.
Moi, je suis à 100% pour le projet et à 100% pour Erdogan. Je lui fais entièrement confiance. Regardez cette ville. Il a construit des choses dont je n'aurais jamais rêvé. Maintenant, on a même un tunnel sous le Bosphore. Donc, s'il pense qu'il faut un régime présidentiel, je vote pour, parce que c'est lui. J'ai confiance en son leadership.
Trois rangées plus loin, c'est Güzide Duman, une marchande d'agrumes, qui soutient l'opinion inverse.
Je suis contre, mais de fait, nous sommes déjà dans un régime présidentiel, le régime d'un seul homme, un régime qui n'est plus laïque. Ça se voit dans l'administration, ça se voit dans les écoles. Les gens n'osent plus dire librement ce qu'ils pensent. Nous devons protéger nos valeurs avant qu'il soit vraiment trop tard.
Önder, un habitant de Beşiktaş, est quant à lui plus partagé.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il propose. D'après ce que je lis dans les journaux, il y a un modèle français, un modèle américain, un modèle latino-américain. C'est un peu embrouillé dans mon esprit. Tout ce que je sais, c'est que si le président veut instaurer ce régime, il va devoir créer un large consensus dans l'opinion. On ne peut pas changer ces choses-là par la volonté d'une seule personne.
Si le président Erdogan mène à bien son projet, ses trois stambouliotes, comme 57 millions d'électeurs en Turquie, seront consultés par référendum sur le régime présidentiel. Même si leurs avis diffèrent, Önder, Adem et Güzide avouent tous les trois ne pas savoir ce qu'est un régime présidentiel et surtout ce que Recep Tayyip Erdogan entend par là. Un constat qui n'étonne pas Murat Gezici, directeur de l'un des principaux instituts de sondage du pays.
Aujourd'hui, 68% des Turcs disent ne pas savoir ce qu'est le régime présidentiel. Raison pour laquelle, dans nos sondages, nous ne leur demandons pas s'ils sont pour ou contre le régime présidentiel, mais s'ils soutiennent le régime présidentiel dont parle Tayyip Erdogan. Le problème, c'est que le président n'est jamais entré dans les détails. Ses discours sont toujours très vagues, volontairement vagues. Il pense qu'en mettant en avant un régime présidentiel au contour flou, il pourra mobiliser davantage de soutien.
Les instituts de sondage interrogent les Turcs sur le régime présidentiel depuis 2011, une année électorale au cours de laquelle Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, avait commencé à inscrire ce projet dans le débat public. Depuis, le soutien n'a fait qu'augmenter. D'abord lentement les premières années, 20% en 2013, 30% en 2014, 35% début 2015. Mais ces 12 derniers mois, le pourcentage des sondés qui se disent favorables a dépassé 50%. Il faut souligner que la Turquie vient de vivre une année particulièrement violente. La guerre a repris avec le PKK kurde, les attentats se multiplient à Istanbul et Ankara, et Recep Tayyip Erdogan ne passe plus une journée sans se présenter en sauveur d'une nation menacée de toutes parts, dont le salut passerait par le régime présidentiel. Murat Gezici.
Quand nous demandons à ceux qui soutiennent le régime présidentiel les raisons de leur soutien, la réponse la plus fréquente est « pour un État fort et une économie forte ». Erdogan s'est très bien flatté les rêves de grandeur d'une partie des Turcs. Dans ses meetings, les affiches avec sa photo vantent systématiquement l'État fort.
Murat Gezici observe qu'Erdogan se comporte déjà en chef d'un régime présidentiel. L'analyste a même une théorie sur le sujet.
Dans le régime actuel, le président n'est juridiquement responsable de rien. Il suffit à Erdogan de donner des ordres pour que ses députés, ses maires, ses fonctionnaires obéissent et prennent la responsabilité. Dans un régime présidentiel, la signature du président engage sa responsabilité et Erdogan devra rendre des comptes. Je pense donc que le régime actuel, un régime présidentiel de facto, est beaucoup plus avantageux pour lui et son autorité et je pense qu'il le sait très bien. Quoi qu'il en dise, Erdogan n'est pas pressé d'instaurer ce régime dans la Constitution. Alors oui, il en parle tout le temps et les médias aussi, c'est le but, détourner l'attention. Pendant ce temps, qui parle de la mauvaise santé de notre économie, de notre système éducatif ou du problème des réfugiés?
Il n'y a réellement qu'une question sur laquelle les Turcs semblent à peu près d'accord. La nécessité d'une nouvelle constitution pour remplacer l'actuelle, rédigée par des militaires à l'issue du putsch sanglant du 12 septembre 1980. 75% des Turcs réclament un nouveau texte, et Tayyip Erdogan aussi. Mais si le leader turc continue de faire campagne pour son régime présidentiel, on ignore sa stratégie quant au référendum qu'il devra convoquer. Essaiera-t-il de l'insérer dans un vote global, sans doute plus consensuel, sur une nouvelle constitution? Y consacrera-t-il un vote à part entière, mais plus risqué, pour ou contre le régime présidentiel? Ou se contentera-t-il d'une révision à minima, en demandant aux Turcs d'autoriser leur président à conserver ses liens avec son parti politique, chose que l'actuelle constitution lui interdit en théorie. Tayyip Erdogan n'a pas encore abattu toutes ses cartes et les Turcs n'ont pas fini de débattre des ambitions de leur président.
C'est le premier sommet du genre, une rencontre internationale contre l'islamophobie qui s'est tenue à Sarajevo en Bosnie il y a quelques jours. Pour les anciens ministres Bernard Kouchner, Jack Straw ou encore José Luis Zapatero, c'était un symbole de tenir cette rencontre en Bosnie, théâtre du massacre de 8000 musulmans en 1995. Simon Rico.
Il y a un peu plus de 20 ans, la Bosnie-Herzégovine était plongée dans la guerre. En 1995, 8000 hommes musulmans étaient froidement assassinés à Srebrenica par les troupes serbes de Ratko Mladic, un massacre qualifié de génocide par la justice internationale. Pour les organisateurs de ce forum contre l'islamophobie, placé sous l'égide de la Turquie, le choix de Sarajevo était donc symbolique. Plus de 50 personnalités venues de 22 pays ont dialogué ensemble avec un double objectif, dénoncer la montée de ce sentiment xénophobe et trouver des réponses pour l'enrayer. Parmi les invités figurait notamment le français Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins Sans Frontières et ancien ministre des Affaires étrangères, le britannique Jack Straw, ministre des Affaires étrangères de Tony Blair, ou José Luis Zapatero, dont le discours a été remarqué. Ce n'est pas la religion qui tue les gens, mais le fanatisme, a martelé l'ancien premier ministre espagnol, ajoutant qu'il fallait lutter main dans la main avec les musulmans contre l'islamophobie. Pour le conseiller académique du forum, le professeur à l'université autrichienne de Salzbourg Farid Hafez, il est indispensable de s'opposer aux discours anti-musulmans qui se banalisent, comme ceux de Donald Trump ou de Viktor Orban et Robert Fico, les premiers ministres hongrois et slovaques, qui jugent tous deux que l'islam n'a pas sa place en Europe. Il faut se souvenir de l'histoire récente de Sarajevo, souligne-t-il. La guerre de Bosnie est l'exemple de ce qu'il peut advenir quand la logique de haine s'impose. Après les attentats qui ont touché Paris, Bruxelles et Orlando, après la crise des réfugiés, ce forum contre l'islamophobie est un premier pas.
I'm tired, I'm worried, and I'm upset.
We are Europeans. We're citizens of the world. We didn't vote to leave Europe, but you're snatching it away from us.
Why does my future have to be influenced by a generation who can't see what they receive and benefits compared to a nostalgia they long for that can never be again?
Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors stupéfaction, consternation et même désarroi, c'est ce que ressentent la plupart des jeunes encore 6 jours après la publication des résultats au référendum sur le Brexit. Il est clair que la division entre les deux populations du Royaume-Uni se double aussi d'une division générationnelle, Eve.
On a beaucoup entendu ces jeunes, d'ailleurs, dans les médias ces derniers jours. Vous entendiez en ouverture de cette chronique un extrait d'une vidéo publiée par le quotidien Le Guardian au lendemain du scrutin. Ce ne sont pas les seuls à être déçus de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Rappelons que 48% des électeurs, donc quasiment 1 sur 2, étaient contre le Brexit. Mais ce sont ceux qu'on entend le plus. Ce serait même la classe d'âge qui a le plus voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, 66% des 18-24 ans, selon l'institut de sondage YouGov.
Alors des sondages à manipuler avec précaution, Eve, car les jeunes sont aussi ceux qui ont le moins voté.
Et oui, car comme dans la plupart des pays européens, la jeunesse britannique est touchée par une grave crise démocratique. Sur ce scrutin, 1/3 des jeunes se seraient abstenus. Reste que la jeunesse, qui a l'impression de déjà subir les choix politiques de ses aînés, a le sentiment qu'elle n'a pas assez pesé dans les débats. Déjà, les dirigeants européens réunis hier promettent de lui donner plus de place dans la vie politique démocratique en Europe.
Alors au-delà de ces promesses faites au lendemain des résultats du référendum, à quoi peuvent s'attendre les jeunes britanniques dans les années qui viennent?
Alors tout cela est encore bien flou, mais une chose est sûre, les jeunes britanniques qui sont nombreux à faire des études ou partir travailler ailleurs en Europe risquent de voir évoluer les choses en leur défaveur à l'horizon 2020. On pense évidemment en premier lieu à Erasmus, le célèbre programme de mobilité qui permet aux étudiants de circuler librement au sein de l'Union, en gros d'étudier un peu là où ils veulent. Les bourses pourraient disparaître, aussi bien pour les jeunes britanniques intéressés par les universités européennes que pour les jeunes européens qui veulent partir étudier au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui va devoir, de toutes les manières, renégocier sa participation au programme d'échange avec l'Union européenne lors de sa sortie.
Plus de bourses, Eve, mais surtout des frais d'inscription plus élevés.
Oui, forcément, s'il ne s'agit plus d'échange, les jeunes européens devront payer les mêmes frais d'inscription que ceux que paient actuellement les étudiants hors UE, ce qui correspond généralement au double du montant négocié avec les partenaires européens, jusqu'à 17 000 livres par exemple par an pour une grande université britannique située à Londres.
Autre population concernée, les jeunes actifs candidats à l'immigration.
En sortant du marché commun de l'UE, le Royaume-Uni va probablement rétablir la procédure obligeant les jeunes travailleurs à demander un visa de travail. C'était d'ailleurs l'un des arguments de campagne des pro-Brexit qui se plaignaient de l'arrivée massive des travailleurs polonais, notamment depuis quelques années. Alors ceux qui risquent vraiment de subir ce barrage administratif sont moins les jeunes européens surdiplômés que les travailleurs peu qualifiés qui venaient tenter leur chance dans la restauration, par exemple. Enfin, on en saura plus dans les années qui viennent.
Eve Minot, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine dans Accent. Happy cow, take it to it, bro. Happy cow, follows you all day. Happy cow, play, 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 play. Rendre les vaches heureuses pour obtenir un lait de qualité, cela se passe aux Açores, les îles portugaises, en plein océan Atlantique. Les bêtes passent toute l'année dans les champs, d'où ce label lait de pâturage. C'est le groupe français Bel qui s'est lancé dans cette opération, bien comprise par les exploitants. Les éleveurs espèrent ainsi sauver la filière. Reportage à San Miguel, l'île principale des Açores, Marilyn Darcy.
Les sifflements de Génio Camara pour interpeller les ouvriers à l'autre bout du champ interrompent parfois la quiétude champêtre. Producteur de lait sur l'île de San Miguel, il est adhérent du programme Vacas Felizes, Vache Heureuse, qui le lie comme 500 producteurs de l'île à l'industrie laitière française Bel par la voix de sa filiale portugaise Terra Nostra. Pour faire partie du programme, Eugenio a dû observer 177 critères du protocole. Eugenio Camara.
Il y a beaucoup de critères, je peux en citer quelques-uns. Par exemple, le lait de mes vaches doit être systématiquement refroidi après la traite et doit être acheminé aussitôt vers la laiterie. Et ça, au quotidien. Le lait doit être frais. Il faut respecter des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, s'acquitter des contrôles et des mesures.
Certains agriculteurs ont dû investir, mais le saut qualitatif et la valorisation du lait de pâturage compensent largement. Eugenio Camara.
Nous ici, on a toujours fait de la production en pâturage, mais si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas connaître notre univers. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est certifier le lait, montrer qu'il est de grande qualité et le faire savoir. C'est ce qui nous manquait à grande échelle. En faisant la promotion de notre différence, on obtient une plus-value.
La fin des quotas laitiers et la diminution de la demande en lait fragilisent un secteur en situation de quasi-monoproduction. Le litre de lait valait 35 centimes il y a 2 ans, il n'en coûte plus que 22. 60% de la production laitière açorienne serait menacée par les changements concernant le secteur. Une situation dramatique pour Georges Rita, responsable de la Fédération agricole des Açores.
En ce moment, de nombreuses exploitations sont en difficulté car le prix de production du lait est supérieur au prix de vente. La région vit la même chose que dans le reste de l'Europe, mais le gouvernement n'a pas eu la même attitude qu'en France, où il y a dialogue entre le gouvernement et la filière de l'industrie laitière. J'espère qu'ici les choses vont changer, sinon ça va tourner au drame. Aux Açores, il n'y a pas de production alternative.
L'usine Terra Nostra a créé une ligne de production pour sa nouvelle gamme de lait de pâturage et a mis l'accent sur un conditionnement moderne et des packs de lait au bouchon biodégradable. Un saut qualitatif qui a un coût. Reste à convaincre les consommateurs. Claudia Sa, directrice de Terra Nostra.
Notre investissement industriel est de 5 millions d'euros. Et auparavant, on avait embauché des gens pour mettre le projet en place et les former. À partir de maintenant, la grosse part de l'investissement concerne la communication. On va lancer une campagne de publicité sans précédent pour habituer les gens à réfléchir, pour que le consommateur pense à ce qu'il est en train de consommer et pourquoi. On va investir encore 5 millions d'euros pendant les 3 prochaines années en communication.
Cerca de 5 milhões de euros de investimento.
Avec la publicité de la marque, les vaches heureuses sont lancées. L'archipel des Açores fournit les 4/5 de la totalité du lait consommé au Portugal. Et le lait, pour ces îles au milieu de l'Atlantique, c'est l'unique ressource avec le tourisme. Les enjeux sont importants. Magali Sartre, directrice du département de responsabilité sociale chez Bel.
Si on veut que l'ensemble des êtres humains aient accès des produits laitiers au bénéfice des produits laitiers dans le futur, ça ne pourra pas se faire en se disant que l'ensemble des vaches de la planète vont aller au pâturage. Tout simplement parce que ce n'est pas forcément écologiquement la meilleure solution. Néanmoins, là où il y a une tradition pastorale, nous, Bel, on a la volonté d'essayer de s'impliquer aux côtés de nos éleveurs pour préserver la tradition pastorale.
Les producteurs de lait associés au projet Vache Heureuse reçoivent 2 centimes de plus par litre de lait. C'est une hausse limitée, certes, mais elle permet de compenser la perte du prix du lait sur le marché mondial. Le consommateur, lui, devra payer quelques centimes de plus son litre de lait de qualité.
Françoise Grelot était bien évidemment à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Vous écoutez bien RFI dans quelques instants, les infos.